journal de 7h avec vous Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
Menace d'attentat terroriste sur l'aéroport de Kaboul. Les Occidentaux appellent leurs ressortissants à quitter les lieux alors que des milliers d'Afghans espèrent toujours avoir une place dans un avion. Les autres titres, Laurence.
Et dès sans compter, le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, c'est fini. De rares secteurs vont pouvoir toutefois continuer à être soutenus pendant la crise. Garde d'enfants et télétravail ne font pas bon ménage. Les parents ont revu à la baisse le volume d'heures à cause du télétravail, donc un secteur professionnel qui se retrouve pénalisé par le Covid. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, au défi d'une nouvelle rentrée encore chamboulée par la pandémie. Conférence de presse du ministre ce matin. Et puis une rentrée littéraire sous le signe de la bonne santé. Les ventes de livres en librairie se portent très bien.
Les invités de la matinale, réussir la rentrée sous Covid et préparer la campagne. Double défi pour la majorité. Le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guérini, au micro Inter, dans trois quarts d'heure. Et puis à 8h20, la rentrée littéraire aussi dans le grand entretien. Comme tous les ans, France Inter vous propose sa sélection de 10 romans en partenariat avec Le Point cette année. Nous serons avec Jean-Baptiste Delamo pour son 5e livre, Le Fils de l'Homme. Et puis Santiago Amigorena poursuit son œuvre autobiographique, commencée il y a 25 ans, Le Premier Exil, l'enfant, les pères, la transmission, la fatalité de la violence. Amis auditeurs et lecteurs, on vous attend au standard 01 45 24 7000, il est ouvert.
France Inter.
Menace d'attentat terroriste à l'aéroport de Kaboul, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite du site après des mises en garde très précises. Ces avertissements occidentaux interviennent alors que l'arrêt du pont aérien militaire par les Américains est toujours prévu pour le 31 août. Les Français, eux, achèvent le leur aujourd'hui, leur pont aérien entre l'Afghanistan et les Émirats, le point avec Eric Bigala.
Le pont aérien sur Kaboul, tant sa mise en œuvre que sa suspension, obéit à une mécanique complexe. Les Américains doivent avoir quitté complètement Kaboul mardi. Il va donc falloir qu'ils évacuent en dernier leur personnel présent sur place et notamment les 5800 soldats qui sécurisent l'aéroport de Kaboul. Et si l'aéroport n'est plus militairement sécurisé, les autres pays participant à ce pont aérien refuseront de poser leurs appareils. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées français.
Ce qui est clair, c'est que la sécurité de l'aéroport de Kaboul aujourd'hui est assurée majoritairement par les Américains. Et à partir du moment où les Américains décident unilatéralement de se retirer de l'aéroport de Kaboul, nous ne pouvons plus, pour des raisons de sécurité évidentes, continuer à opérer des vols militaires.
En fait, on peut imaginer une sorte de poursuite de ces évacuations au départ de l'aéroport de Kaboul, mais par des moyens non militaires.
Ce qui a été demandé par les dirigeants de l'Union européenne à l'issue du sommet du G7, c'est que, une fois que les opérations d'évacuation militaire seront terminées, les talibans garantissent la possibilité pour des Afghans qui le souhaiteraient de pouvoir quitter le pays.
Hier soir, la diplomatie allemande, par la voix d'un de ses négociateurs en relation avec le bureau politique des talibans, assurait que ceux-ci autoriseraient les Afghans ayant des papiers en règle à quitter le pays sur des vols commerciaux après le 31 août.
Eric Bigala, Joe Biden, donc le président américain, ne va pas prolonger le délai de retrait de ses troupes malgré les pressions du G7. La date butoir reste donc dans 5 jours, mardi prochain. Mais des milliers d'Afghans qui tentent de fuir le pays sont toujours bloqués à Kaboul. Clémence Pénard.
C'est le cas de Gulchaman. Il y a encore quelques semaines, elle travaillait pour le ministère de la Culture. Elle fait aussi partie des Hazaras, une minorité ethnique en Afghanistan, persécutée et torturée à répétition par les talibans dans le passé. Aujourd'hui, Gulchaman fête son 27e anniversaire.
Les talibans vont me tuer et tuer ma famille. Mon père faisait partie de l'armée, mon frère aussi. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît.
Mohamed, 39 ans, a une femme et 4 enfants. Lui travaillait pour le département de santé publique de la région du Bamiyan.
Je n'ai pas les papiers qu'il faut pour partir. J'ai entendu que les talibans n'accepteraient pas d'étendre l'échéance du 31 août. C'est très triste. Ma peur, c'est que quand les talibans seront seuls, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'exécuter les gens. Et c'est certain, je ferai partie de ces personnes exécutées.
Gulchaman, Mohamed et tant d'autres se cachent à Kaboul en attendant désespérément de pouvoir monter dans un avion.
Clémence Pénard.
C'était attendu, le gouvernement a annoncé la fin des aides généralisées aux entreprises.
Invité hier des rencontres du MEDEF, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a acté la fin du quoi qu'il en coûte, expression utilisée par Emmanuel Macron, pour aider les entreprises lors de la crise sanitaire avec des aides massives. Le gouvernement veut surfer sur les bons indicateurs économiques pour revenir à une vie la plus normale possible. Quelle stratégie pour cela, Fabien Cazot?
Aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte ne concerne plus que 5 secteurs d'activité. Le tourisme, l'événementiel, le sport, la culture et les cafés-restaurants. Le montant des paiements par carte bancaire de clients en atteste. L'activité redémarre à des niveaux parfois supérieurs à ceux d'avant crise. Sauf pour les cinémas qui souffrent encore, souligne le ministère de l'économie. Et pour certains centres commerciaux à cause du pass sanitaire. Mais imagine-t-on indemniser des centres commerciaux, interroge Bercy. Dans les faits, le fonds de solidarité conditionné à des pertes de chiffre d'affaires est appelé à s'éteindre naturellement, de moins en moins d'entreprises y ont droit. Quant aux prêts garantis par l'État, le gouvernement estime que les entreprises qui en avaient besoin les ont déjà souscrits. Dans son dernier budget rectificatif, la fin de ce dispositif est déjà programmée pour le 31 décembre. La date butoir est même fixée au 31 août pour le fonds de solidarité, avec prolongation possible de 4 mois en fonction de la situation sanitaire. Bercy dit travailler sur des pistes qui permettraient le maintien de versements très ciblés pour les seuls secteurs ou zones géographiques encore en difficulté.
Fabien Cazot.
7h06, fermer le moins possible de classes, préserver la scolarité des élèves, la difficile équation de la rentrée scolaire.
Car le variant Delta, très contagieux, complique l'organisation. Le ministre de l'Éducation tiendra ce matin à 9h sa conférence de presse de rentrée. On sait déjà que le gouvernement veut insister sur le dépistage. Objectif de 600 000 tests salivaires chaque semaine dans le primaire, autotest aux collégiens et lycéens dans les zones de circulation active du virus. Dépistage d'un côté et vaccination de l'autre, avec cette nouveauté cette année pour les plus de 12 ans, mettre les collèges et les lycées à contribution dans cette campagne vaccinale au moyen de centres éphémères dans ou près des établissements. Sonia Princé.
Ces centres mobiles près des collèges et lycées seront installés dans les zones où les taux de vaccination sont les plus bas. Ailleurs, les élèves pourront être acheminés vers des centres de vaccination déjà existants. Des médiateurs devront gérer les déplacements des élèves et l'éducation nationale va aussi recruter des assistants d'éducation supplémentaires, comme l'explique Elisabeth Alain Moreno, secrétaire nationale du syndicat des enseignants de l'UNSA.
Quasiment 700 équivalents temps plein d'assistants d'éducation, mais qui seront vraiment dédiés à la mise en place de la stratégie vaccinale sur les établissements. Le rôle des assistants d'éducation, ça va être sur la communication aux familles et le relevé des autorisations familiales par rapport à la vaccination, de façon à ce que tout ne repose pas sur les personnels de direction.
L'an dernier, les tests de dépistage dans les établissements scolaires n'ont pas suscité l'adhésion des familles. Est-ce que la vaccination aura plus de succès? Il faudrait une vraie campagne d'information, selon Mathieu de Vlaminck, président du syndicat lycéen UNL.
Il y a un véritable enjeu sur l'action de la vaccination chez les jeunes, c'est l'enjeu de la pédagogie. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de jeunes qui sont défiants vis-à-vis du gouvernement. Il y a une défiance en fait des jeunes vis-à-vis des institutions qui parfois peut se développer vers une défiance vis-à-vis du vaccin lui-même. Et il y aura nécessité d'aller chercher les jeunes qui ne sont pas vaccinés.
D'après les derniers chiffres, environ 2/3 des jeunes de 12 à 17 ans ne sont pas encore totalement vaccinés avec 2 doses.
Sonia Princé, outre le volet sanitaire, Jean-Michel Blanquer est attendu sur la question des salaires des professeurs. Selon les syndicats reçus hier soir par le ministre, des primes de 29 à 57 euros net par mois pour les plus jeunes et les milieux de carrière ont été validées pour l'année prochaine. Il est une grande perdante de la crise sanitaire. La garde d'enfants, qu'il s'agisse des gardes à domicile ou des assistantes maternelles, un secteur dont les salaires ont très peu augmenté, mais surtout une demande désormais très différente, puisque les parents ont découvert le télétravail. CQFD Claire Chaudière, vous avez pu lire en avant-première cette enquête de Youpiz, une agence de recrutement. Les besoins des familles ont changé, le volume d'heures a baissé.
Depuis un an, de nouvelles situations, de nouvelles pratiques ont émergé, décrit Benjamin Suchard du réseau de garde à domicile Youpiz, qui publie aujourd'hui son étude annuelle sur le secteur.
On observe vraiment un nouveau type de garde, ce qu'on n'avait pas du tout vu les années précédentes. C'est des gardes à domicile, alors que les parents sont là.
En somme, les enfants et la nounou dans le salon, tandis que l'un des parents télétravaille porte fermée. Et si les fermetures de classe ont parfois donné lieu à une hausse de la demande, ajoute-t-il, en réalité, sur le long terme, les enfants l'amplitude horaire des gardes à domicile diminue, toujours à cause du télétravail.
On voit que les parents s'arrangent pour ne plus faire du plein temps. Alors ils peuvent évidemment pas complètement changer et garder leurs enfants et travailler en même temps. Mais on va dire qu'ils sont un peu plus flexibles.
Et le constat est le même pour les assistantes maternelles. Les besoins des parents ont évolué, selon Nathalie Dioré de la XAFAM, le syndicat des assistants maternels.
Baisse du nombre d'heures, puisqu'il y a déjà tout le trajet pour se rendre prendre sur leur lieu de travail qui est déduit du nombre d'heures hebdomadaires, ce qui peut faire aussi des gros manques à gagner.
Sans oublier les nombreuses ruptures de contrat, déplore le syndicat, à la faveur des confinements successifs, certaines professionnelles n'ayant toujours pas retrouvé leur salaire d'avant-crise.
Et le détail de l'évolution des tarifs et des tendances de garde d'enfants, c'est à retrouver sur franceinter.fr. L'invité inattendu de la primaire de la droite, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, figure de proue de l'aile droite des Républicains, annoncera samedi soir devant ses supporters qu'il brigue l'Élysée. Lui, il s'exprime pour la première fois depuis son incarcération en janvier dernier. L'opposant russe Alexeï Navalny décrit ses conditions d'emprisonnement dans un entretien au New York Times. Privation de sommeil et violence psychologique.
Après le chaos et l'indignation, les premières sanctions de la Ligue professionnelle de foot sont tombées.
Un huis clos, une suspension. La commission de discipline a délivré hier soir ses premières mesures à titre conservatoire. Trois jours après les violents affrontements lors de la rencontre entre Nice et l'Olympique de Marseille à l'Alliance Riviera. Nicolas Perronnet.
Première mesure, un huis clos total pour le prochain match de Nice à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Il se déroulera samedi sans public. Mesure qui s'ajoute à la fermeture pour les quatre prochaines rencontres de la tribune sud, celle des ultra-populaires déjà prononcée par la préfecture des Alpes-Maritimes. Deuxième mesure, Pablo Fernandez, suspendu de toute fonction officielle. Il s'agit du préparateur physique de l'Olympique de Marseille. Cet homme en gilet orange que l'on voit très clairement sur les vidéos sprinté sur 50 mètres pour asséner un coup de poing très violent à un supporter niçois. Deux mesures à titre conservatoire. En attendant la fin de l'instruction le 8 septembre, la commission rendra alors d'autres décisions sur le comportement des supporters niçois et l'envahissement du terrain. Celui des joueurs, aucun d'entre eux n'est pour l'instant suspendu, mais cela pourrait être le cas. Enfin, le sort de la rencontre. Pour l'heure, le match arrêté à 1-0 en faveur de Nice à la 75e minute de jeu n'est pas comptabilisé au classement.
Nicolas Perronnet, ils nous détendent, ils nous informent, ils nous déstressent et ils maintiennent notre cerveau en bonne santé. Les livres, et ils se portent bien. En France, selon une étude de l'Institut GFK, leurs ventes ont progressé de 43% pendant les 6 premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier. Les libraires abordent donc cette rentrée littéraire avec un certain optimisme. Ilana Morissef.
Belle librairie de quartier dans le 12e arrondissement de Paris, à tout livre, a déjà mis ses habits de rentrée. Sur les tables, les nouveautés dont parlent les journaux, le directeur, Quentin Scouvart, est également le président de Librest, un regroupement de libraires indépendants de l'Est parisien.
Après une année et demie très compliqué sur le plan d'organisation du travail, de la fatigue nerveuse, pour toutes sortes de raisons qu'on connaît. Au fond, ça a été économiquement une très bonne année. Même s'il y a un retour à la normale avec tous les guillemets qu'il faut aujourd'hui, ce qui a été gagné en nouveaux clients l'est encore.
De quoi envisager la rentrée avec optimisme ?
Ce qui se profile, c'est que peut-être contrairement à d'autres années, il n'y a pas deux, trois titres phares qui sont censés phagocyter tout.
Les premiers jours, les clients demandent surtout les livres d'auteurs attendus. Simon Gémont, le responsable du rayon littérature, en profite pour leur parler des coups de cœur de l'équipe.
Parlons de Mariette Navarro. Elle publie chez Kidam, Ultramarin. C'est une femme qui dirige un cargo. Le cargo va s'arrêter et en pleine mer, elle va accorder une pause baignade à ses marins. Et évidemment, ça va tout dérégler dans leur voyage. Également, Jérôme Chantreau. Jérôme Chantreau publie Bélazar chez Phébus. Il y a quelques parallèles à faire avec le Laetitia d'Yvan Jablonka. À la recherche d'un adolescent disparu, un adolescent forcément en dehors des clous. On a adoré découvrir ce troisième roman.
Et il y en a bien d'autres que les libraires se feront une joie de faire découvrir.
Ilana Morissef.
Un livre peut changer une vie, comme disait Sylvain Tesson. Merci Laurence Thomas pour le journal. Le zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, on se glisse dans l'ombre de la présidentielle et ce matin, dans l'ombre de Xavier Bertrand.